Eh bien, si vous voulez bien, monsieur Christophe Bâtard, vous présenter.
Alors, donc je suis architecte d'abord, architecte en chef des monuments historiques ensuite, j'ai envie de dire, dans l'ordre. Donc spécialisé dans la restauration des monuments historiques, mais aussi dans la reconversion. Et on fait d'ailleurs un peu d'autres choses que ça, mais parce que je tiens à ce métier d'architecte qui est quand même important. Je suis associé de deux agences, une qui s'appelle 2BDM et une autre qui s'appelle Arten et qui travaille sur la restauration de la prison actuellement.
Et donc, vous avez été l'architecte des monuments historiques de ce département?
Oui, je l'ai été de 2005 à 2015.
2005 à 2015, voilà.
Voilà.
Et avant
Alors avant, je sortais de l'école et j'ai été 2 ans architecte des bâtiments de France dans le département de l'Oise. Puis j'ai passé le concours d'architecte en chef des monuments historiques. Et donc ma première circonscription a été les Côtes d'Armor et la Manche. Et aujourd'hui, je m'occupe du Maine-et-Loire, du château de Vincennes, du château de Rambouillet.
Et du coup, dans votre parcours d'architecte des monuments historiques, à quel moment vous avez croisé pour la première fois la prison de Guingamp?
Alors, c'était en 2006. C'est une des opérations importantes, on va dire, dont j'ai été chargé dans les Côtes d'Armor, puisqu'à la suite de l'incendie de 2004, les questions de conservation se posaient sur le monument. Et donc, on a fait une première visite ici avec la conservation régionale. On a rencontré Madame la maire, et on a commencé à parler de la mise en place de ce projet, qui était véritablement un projet de conservation, de gros travaux de conservation pour mettre hors d'eau les 4 bâtiments principaux qui étaient autour de la cour, avec leur galerie et toute la structure qui allait avec, puisque la galerie en fait porte la couverture et elle-même était endommagée par l'incendie. De manière générale, on commence toujours par refaire un historique du bâtiment. Alors c'est jamais, c'est pas une thèse, hein, c'est nous on l'oriente pour en fait la bonne compréhension du bâtiment et surtout la compréhension de son évolution. C'est-à-dire quels sont les éléments d'origine, quels sont ceux qui ont été rapportés, est-ce que ceux qui ont été rapportés ont un intérêt ou pas. Tout ça pour nous c'est important pour savoir placer finalement le curseur de la restauration, et éventuellement fixer un état historique, plutôt telle période qu'une autre. Est-ce que c'est possible d'ailleurs ou pas? Est-ce qu'on est obligé de revenir sur des dispositions qui sont elles-mêmes intéressantes? Enfin voilà, c'est toutes ces questions pardon, qui se posent et qui nécessitent du coup d'avoir compris le bâtiment à la fois dans l'observation et à la fois dans les recherches documentaires, essentiellement architecturales, c'est-à-dire des plans, des descriptions de travaux et tout ce qui va nous permettre d'identifier des éléments de valeur, on va dire, à nos yeux.
Et du coup, c'est dur de monter dans le temps, mais quel a été d'après vous, et quel est peut-être encore maintenant, le regard que vous portez sur le travail de celui qui est un peu votre prédécesseur dans un format un peu différent, un certain Louis Lorrain, pardon, architecte départemental au début du 19e?
Alors, effectivement, enfin, on est prédécesseur parce qu'il est architecte, mais on n'avait pas du tout
Non.
les mêmes missions. Moi, j'ai un regard sur lui, surtout sur ce projet, parce que je connais d'autres bâtiments de cet architecte, mais celui-ci, évidemment, on s'y est penché un petit peu plus. Moi, j'aurais tendance à dire que d'abord, cette prison, je la trouve belle. Enfin, c'est toujours un petit peu désagréable de dire ça, parce que c'est une prison. Mais en règle générale, les plans de prison sont de beaux plans. Et je trouve que Lorrain a fait un beau plan. Et il est à la fois beau et à la fois il est intéressant parce qu'il s'intègre dans un tissu urbain qui est déjà d'abord à proximité de la ville ancienne, donc c'est quand même un défi. Il s'intègre dans des emprises de couvents, donc sans doute clos de hauts murs. Donc finalement, ça ne devait pas dépareiller beaucoup. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on passe à côté de la prison, on voit que ça parce qu'il y a un grand mur de pierre, mais finalement, toutes les grandes propriétés conventuelles étaient ceintes de ces mêmes types de murs. Donc je trouve que à la fois l'intégration est belle, à la fois le plan est beau, aussi contradictoire que ça puisse paraître. Et puis, ce qui est très particulier ici, c'est qu'on a une vraie surprise quand on rentre. C'est-à-dire quand on arrive à l'intérieur, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans une prison. Alors, c'est lié essentiellement aux matériaux, puisque initialement, Lorrain avait prévu, enfin, pas Lorrain, mais en fait, le projet initial prévoyait un projet en granit avec des arcades, enfin quelque chose d'assez traditionnel et assez local, finalement qu'on aurait évoqué plus ou moins une galerie de cloître, comme on en trouve par ailleurs ici, et un peu plus loin. Et en fait, pour des questions d'économie, questions qu'on se pose encore aujourd'hui quand on a les mêmes problèmes de projet, il a fallu changer le matériau et on se retrouve avec cette architecture qui est presque colonial, un peu, enfin, on a l'impression d'être en Guyane ou je ne sais pas où, mais on a du coup un espèce de sentiment de chaleur à travers le matériau, qui pourtant est un matériau de prison. Voilà.
Oui. Et c'était une sorte de surprise, de choc que vous n'avez pas croisé ailleurs ? Nous ne sommes pas spécialistes, mais...
Oui, à ce point, oui, quand même, parce qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont construits pour créer des événements ou des surprises architecturales. Mmh. Là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il ait véritablement voulu choquer le visiteur ou en tout cas l'interpeller au moment où il rentrait dans la prison, mais il se trouve que ça marche bien. Mmh. C'est-à-dire que là, non seulement il y a une progression depuis l'espace public à l'espace d'enfermement, mais il y a aussi une progression dans les ambiances qui peut-être était voulu, parce que malgré tout, c'est un architecte avant d'être un concepteur de prison. Et du coup, ça donne ce résultat qui est très satisfaisant, je trouve.
Et du coup, quand en 2006, vous travaillez à ce projet de, on va dire, de restauration, puisque là, on est sur de la restauration à ce moment-là, est-ce que dans votre esprit, ou dans l'échange que vous avez avec Mme Pogam, qui est à ce moment-là en charge des questions de patrimoine, émergent déjà des projets, des idées de reconversion ?
Alors moi, j'en ai pas eu connaissance particulièrement. Je sais que mon prédécesseur, qui était une femme, d'ailleurs Marie-Suzanne de Ponto, avait dessiné un projet qui ne proposait pas forcément un programme, mais qui proposait la couverture de cours, enfin des choses qui permettaient, en tout cas, d'ouvrir des possibilités de réutilisation. Mais à ce moment-là, nous, notre enjeu, c'était surtout de conserver et de permettre justement de se laisser le temps de réfléchir à une reconversion avant qu'il soit trop tard, finalement, parce que le bâtiment s'endommageait relativement vite. Ça faisait une cinquantaine d'années que le bâtiment était désaffecté, plus l'incendie. Donc finalement, non, voilà, moi, en tout cas, je ne m'étais pas posé particulièrement la question de cette reconversion. De la même manière que sur les prisons, de manière générale, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de recul sur le point de vue architectural de leur reconversion. C'est une thématique qui est quand même assez récente. D'ailleurs, il y a la revue Monumentale qui est parue en 2018, qui a fait un numéro spécial sur les lieux d'enfermement et qui montre bien le regain d'intérêt de ces prisons qui petit à petit ferment parce qu'elles ne sont plus adaptées pour des questions de sécurité, pour des questions de confort et de sûreté, de plein de choses, de dimensions sans doute. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de sujets qui se présentent et on a des automatismes peut-être qui sont différents que ceux qu'on pouvait avoir il y a encore 15 ans ou 20 ans sur ce type d'édifice.
Et donc en 2011, en fait, la mairie prend en gros la décision de lui donner une vocation. Et à ce moment-là, vous intervenez aussi comme un acteur majeur, cette fois-là non plus simplement de la conservation, mais de sa réhabilitation.
Voilà, alors à ce moment-là, on a répondu à un appel d'offres cette fois-ci. Donc il y a une mise en concurrence qui a été lancée par la ville. Et donc on a plusieurs équipes à avoir concouru pour présenter une vision en fait, de ce qu'on pouvait envisager sur cet édifice. Alors pas une vision de programme, parce que le programme il était déjà écrit et il nous était entre guillemets imposé, mais c'était de savoir comment nous on voyait l'intégration d'un tel programme dans un bâtiment comme celui-ci, quand même assez, assez particulier. Et donc on a effectivement proposé un projet et puis surtout une méthodologie, une approche finalement qui nous a amené à pouvoir remporter l'accord cadre.
Alors quand vous dites « on », c'est donc...
Alors « on », c'est parce qu'on est une équipe, en fait, il n'y a pas que l'architecte. L'architecte, il dirige une équipe, il est mandataire parce qu'il est responsable de ses membres d'équipe, mais on a un bureau d'études qui travaille à la fois sur les fluides, c'est-à-dire la plomberie, l'électricité, la sécurité incendie. On avait un bureau d'études structure également. Et puis un économiste qui a travaillé avec nous, donc voilà, c'est à la fois le BET ARIA et le bureau d'économie Vautruba qui a travaillé avec nous, qui travaille d'ailleurs encore. Et donc c'est cette équipe-là qui doit trouver la cohérence de projet, trouver des solutions à la fois architecturales et techniques pour répondre au programme.
Et donc à partir de ce moment-là, donc en gros en 2011-2012, vous faites une proposition presque complète de réhabilitation et donc avec un objectif qui est principalement l'installation du centre d'art Gwynségal.
Oui. Alors, effectivement, la proposition qu'on a faite devait intégrer ce centre d'art, mais elle était évidemment plus globale, puisqu'elle devait offrir... d'abord, nous, c'était notre intention, c'était d'avoir quelque chose qui pouvait être un projet cohérent, une vision d'ensemble, parce que la prison, elle marche d'un seul tenant, et elle a une logique de fonctionnement, d'ailleurs. Et donc il fallait intégrer ce centre et à la fois trouver des vocations, une répartition de programmes dans les autres bâtiments. Et donc on est nous partis sur une composition tripartite qui partait de l'ouest vers l'est. À l'ouest, une partie très, très bien conservée, sur laquelle on n'intervenait pas beaucoup pour montrer ce qu'était la prison. Au centre, toutes les fonctions d'accueil et les services culturels qui devaient s'y implanter. Et à l'est, c'est-à-dire entre guillemets au fond de la prison, une zone un peu plus autonome pour le centre d'art Gwynségal. Tout ça nous permettait à la fois de le faire vivre et surtout de conserver une partie qui, à travers un circuit un peu particulier, permettait de rentrer par la porte normale de la prison qu'on ne modifiait pas et de faire découvrir du point de vue patrimonial finalement cette prison qui a un grand intérêt dans son fonctionnement. C'est-à-dire on rentre dans une première cour qui est ouverte à tous, aux passagers, à ceux qui viennent visiter les détenus. Puis il y a le bâtiment du gardien. Puis après, on arrive dans une cour qui dessert les cellules. Et après, on a les cours qui sont les cours de travail. Donc cette progression-là, on voulait la conserver. D'où la conservation intacte de la porte à l'ouest et cette progression possible vers les lieux d'enfermement. Et à l'inverse, c'était une porte qui fonctionnait très mal, puisqu'elle donne directement sur la rue, qu'elle a une différence de niveau compliquée, donc pour l'accessibilité, c'était compliqué. Et donc, on a proposé d'ouvrir un mur.
Là, vous avez au sud, proposé des choix très, très, très audacieux, entre guillemets, non ?
Oui, alors, on a... Je dirais que le parti général, il était dicté quand même par une volonté. C'était que quand on arrive aux abords de la prison, on ait toujours l'impression que c'était une prison. Donc il ne s'agissait pas d'abattre les murs de manière très, très franche, comme on l'a vu dans d'autres, mais pour des raisons qui le justifiaient. En l'occurrence, ici, si on pouvait faire autrement, il fallait le faire, je pense. Et à la fois... On a cette contradiction que dans une prison, il faut faire attention qu'on ne puisse pas sortir, donc on n'a qu'une seule porte. Mais quand c'est un édifice culturel, c'est tout l'inverse. Il faut qu'on puisse le lire, il faut qu'on puisse y aller. Et puis surtout, en cas d'incendie, il faut qu'on puisse sortir. Donc on était obligé de toute façon de créer une autre ouverture. Donc on a proposé, pour les mêmes raisons de conservation que j'évoquais tout à l'heure, de ne pas toucher à l'ouest et d'avoir une porte beaucoup plus lisible, mais traitée de manière contemporaine cette fois, pour l'identifier comme un percement contemporain au sud, parce qu'au sud, il y a un parking qui peut devenir à terme un parvis, voilà, qui pourra être paysager. Aujourd'hui, c'est le cantonnement du chantier, c'est un parking goudronné, mais je pense qu'on a toute une mise en valeur à faire aussi de ce point de vue-là, et la ville aura encore plein de choses à faire après. Mais justement, il y a cette possibilité d'avoir un vrai parvis qui annonce l'établissement, et puis de rentrer de manière confortable et sécurisée à l'intérieur de l'établissement culturel cette fois-ci.
Et vous avez à ce parvis prévu aussi des extensions. Alors, une extension à l'intérieur, notamment des cours.
Oui.
C'est un choix que vous aviez en tête rapidement, qui s'est imposé comme une des seules solutions possibles ou...
En fait, il y a deux raisons à ça, à ces extensions. La première, c'est qu'on avait besoin de surface pour répondre au programme. Et la deuxième, c'est que comme on devait accueillir des œuvres, et que ces œuvres, elles doivent répondre à des conditions climatiques, maîtrise de la lumière, de l'hygrométrie, de la température, c'était très difficile de le faire dans des bâtiments qui, en plus, étaient très petits, très contraints, éventuellement cloisonnés, parce qu'il y avait toutes les cellules. Et donc... la possibilité de faire des extensions, ça permettait à la fois de gérer comme on voulait le climat à l'intérieur, de proposer des volumes qu'on n'a pas dans les autres bâtiments, et alors avec évidemment la contrepartie de pouvoir les intégrer. Et donc on est parti sur un principe qu'on ne les verrait pas de l'extérieur, à nouveau pour le même sujet que j'évoquais tout à l'heure, que quand on arrive devant la prison, on est toujours devant la prison. Mais par contre, d'une certaine manière, qu'on crée aussi un peu une surprise. C'est-à-dire quand on arrive, on trouve ces petites boîtes un peu particulières, ces cubes, qui sont particuliers pour deux raisons. À la fois, moi, j'ai eu un travail sur le matériau qui m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que de la manière que je disais tout à l'heure que la prison, il y a une certaine sévérité d'architecture parce que c'est une prison, mais à la fois, il y a cette douceur à l'intérieur. Je trouvais que le métal, il était intéressant à gérer et à utiliser parce qu'il est à la fois un peu sévère, parce que c'est un matériau froid. Et l'inox, il renvoie une certaine douceur. Simplement, quand il est en face d'un mur, il reflète le mur. Il y a une certaine chaleur, il y a une certaine lumière qui se diffuse à travers cet effet de miroir. Donc on a travaillé sur ce principe-là. Puis il y avait le principe aussi du centre de photographie avec le renvoi de la lumière dans la. Enfin voilà, donc il y a un petit clin d'œil aussi à ce qu'on expose. Et ces boîtes qui sont finalement détachées des murs et qui ne s'appuient pas dessus, font rentrer la lumière entre les murs et les extensions, qui elles-mêmes ont des orientations qui permettent de faire rentrer un peu la lumière. Les murs ne sont pas verticaux, ils sont légèrement inclinés, avec un fruit. Et finalement, quand on est à l'intérieur, les fenêtres qui ouvrent sur des murs elles-mêmes, qui montrent qu'on est dans une prison, laissent rentrer une lumière qui est complètement indirecte. C'est-à-dire qu'il y a une lumière un peu diaphane qui est intéressante pour les expositions, qui n'agresse pas l'exposition elle-même. Et puis, on a une possibilité, quoi qu'il en soit, de les fermer pour le besoin de faire le noir quand on a l'utilité dans une exposition ou une autre. Ouais.
Oui, vous avez été confronté à un défi qui est assez incroyable, c'est-à-dire de vous réhabiliter et en même temps vous allez vers une reconversion avec une très grande modernité, et en même temps vous êtes dans de la préservation et de la mise en valeur patrimoniale des autres espaces.
Oui, c'est tout l'intérêt, le côté passionnant de notre métier, ceci étant, mais... Alors, c'est un bâtiment qui est relativement récent et qui est pas comme une église avec une archéologie très forte, avec des décors peints incroyables ou avec une stratigraphie particulière dans ses maçonneries, dans ses menuiseries, etc. Mais malgré tout, il y a un intérêt archéologique très fort aussi dans cette prison, parce qu'elle avait l'avantage d'être encore assez authentique, contrairement à d'autres, hein, qui ont beaucoup évolué, qui ont été mises au goût du jour, qui ont été modernisées avec des planchers en béton, je ne sais quoi, des modifications de portes. Ici, on avait encore toutes les portes d'origine, on avait quasiment tous les décors. Alors, les décors, ce sont des décors de détenus qui ont été réalisés à l'intérieur, avec des frises de couleurs qu'on a exploité d'ailleurs dans les percements, dans les tôles, enfin, là, qui était un petit peu le fil conducteur,
oui, finalement, c'est un fil petit clin d'œil. Ouais.
Mais je trouve que c'était bien d'utiliser à la fois ce seul ornement qui existe à l'intérieur de la prison, parce que tout le reste est très, très basique, et puis à la fois c'est des ornements qui sont à nouveau réalisés par les détenus. Donc, c'est toujours cette espèce de délicate sévérité, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais il y a toujours cette opposition, je trouve, dans cette prison, peut-être dans les autres, je ne connais pas beaucoup.
Certains,
mais...
y voient une chaîne. D'autres, ils voient l'inverse, une chaîne brisée.
Ouais, ouais, alors c'est peut-être la déformation. Moi, je suis architecte et je vois beaucoup d'ornements dans plein d'églises, dans plein de... et donc, je vois plutôt quelque chose de l'ordre du rinceau, un peu simplifié. Voilà, après, c'est mon interprétation. Je ne pense pas forcément à la chaîne quand je vois.
Au passage, mais... les documents d'archives ne permettent pas de dater cette frise.
Non, elles ne sont sans doute pas d'origine, mais... Mais bon, elles ont suffisamment d'ancienneté. D'abord, il y a plusieurs strates et on voit qu'elles ont déjà été reprises. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même un certain âge. Bon, après, l'humidité, le fait qu'elles soient en badigeon fait qu'il y a quand même une pérennité qui est quand même assez limitée. Donc je ne saurais pas le dater. Mais en tout cas, voilà, dans cette prison, on avait quand même encore une grande authenticité. Et le but, c'était véritablement de conserver cet esprit, que quand on rentre dedans, on mette en valeur cette architecture qui était très qualitative malgré tout, qu'on comprenne le plan, qu'on comprenne son organisation, et que toutes les extensions qu'on avait à faire et toute la modernisation qu'on avait à y faire ne trahissent pas finalement cette grande simplicité, cette grande efficacité d'architecture.
Et quelle aura été du coup dans cette phase-là notamment, même si je pense qu'après c'est un peu répétitif, les contraintes sont restées les mêmes, quelle aura été la contrainte la plus forte alors?
D'abord, il y a une contrainte de site, c'est-à-dire que, et notamment dans cette tranche-là, puisqu'on est obligé de traverser un site qui est occupé par le centre de photographie, on va travailler dans des cours qui sont complètement à l'arrière, et autant pour la première tranche, on avait réussi à utiliser une grande brèche qui était dans un mur, et donc on en avait fait un accès chantier très aisé. Aujourd'hui, on ne peut pas, donc on a du tout gruté. Enfin, c'était des techniques un petit peu particulières. Donc il y a déjà la contrainte du fait que, comme on est dans les murs, pour le chantier, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, c'est la contrainte opérationnelle, on va dire. Et après, il y a la contrainte véritablement de conception, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est à la fois de trouver une conciliation entre la conservation et la conservation des œuvres, gestion du climat, etc. D'où la nécessité de faire des extensions. La contrainte de la sécurité, puisque malgré tout, j'ai parlé des issues de secours tout à l'heure, mais il n'y a pas que les issues de secours, il y a le sens d'ouverture des portes, il y a des portes qui sont très très lourdes, et que normalement pour l'accessibilité handicapée, on doit pouvoir ouvrir facilement une porte, donc on a doublé à certains moments des portes avec des portes vitrées. toujours pour garder ces grosses portes monumentales en place, qui servent d'une certaine manière plus à rien, si ce n'est de volets, et avec une intervention contemporaine à l'arrière qui assure le confort. Et en fait, c'est toutes ces petites clés qu'il faut essayer de trouver pour maintenir l'authenticité d'un côté et garantir le confort et la réponse au programme de l'autre. Voilà, c'est ce qui est intéressant dans ces démarches, en fait, de manière générale. Donc oui, c'est surtout, je pense que le fait que ce soit une prison, c'est ça qui rend compliqué le projet, quoi, en fait. Sachant que toutes les questions de conservation, moi, je les rencontre dans tous les autres projets. Mais ici, c'est une petite couche complémentaire, on va dire.
Et donc, en 2016, démarrent les phases de travaux qui amènent à l'installation du Centre d'art à Gwynsegal, donc inauguré en avril 2019. Mais entre-temps, un autre projet n'apparaît pas encore, est un petit peu encore en construction. C'est le projet d'installation de l'INSEAC, de l'Institut National, qui, lui, sera officialisé en juin 2019. Mais vous êtes un des, là aussi, acteurs de cette installation. Donc vous avez échangé avec un certain nombre d'autorités, le maire, celui qui était recteur de Nice à l'époque, et vice-président du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle. Et donc, vous avez apporté, du coup, votre avis à cette installation.
Oui, alors, à sa concrétisation, d'une certaine manière, en gros, la première question qui s'est posée, c'est est-ce que le programme qui est demandé pour installation de l'INSEAC est compatible avec ce qu'il reste de disponible à l'intérieur de la prison, et non seulement en termes d'utilisation spatiale, mais également en termes de, à nouveau, je reviens toujours à ça, mais de sécurité et d'effectifs. C'est-à-dire qu'on a des issues de secours qu'on ne peut pas multiplier à volonté, et donc il a fallu regarder aussi si en termes d'effectifs, d'abord est-ce qu'on répondait à la jauge demandée, est-ce qu'on pouvait mettre les X intervenants dans les salles qui étaient projetées, et est-ce qu'on avait suffisamment d'issues de secours pour cet effectif qui était du coup amené un peu à augmenter pour pas dépasser les catégories de sécurité qui imposent d'autres contraintes de solidité des structures, résistance au feu, enfin je vous passe tous les détails, mais tout ça ce sont des contraintes qu'on ne voit pas parce qu'elles sont pas visibles, on a l'impression que c'est juste est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas, mais derrière on a beaucoup de conséquences réglementaires en fait. Donc ça c'était la première des choses. Évidemment, il y avait aussi, toujours sous l'aspect réglementaire, le fait qu'on avait un permis de construire qui était en cours de validité et qu'il ne fallait pas le remettre en cause, sans quoi, d'abord, on ne répondait plus au calendrier, parce que c'est compliqué d'avoir une autorisation de travaux sur un monument historique, un peu plus que sur les autres, surtout quand c'est un ERP, un établissement recevant du public. Et donc, il fallait que ce programme puisse rentrer au chausse-pied, j'ai envie de dire, dans le projet qui avait déjà été déposé, au moins dans la volumétrie. Après, si on change les réseaux, si on change le sens d'une porte, tout ça est facile et on peut l'adapter. Donc, ça a été un travail juste de compatibilité en fait qu'il a fallu faire rapidement pour savoir si on pouvait se lancer, enfin si monsieur le maire et ses partenaires pouvaient se lancer dans cette démarche d'INSEAC.
Et donc ensuite vous basculez directement dans cette phase là c'est-à-dire que à partir de juin et à partir de la signature en début 2020 de la convention cadre de l'INSEAC, donc ce sont à peu près les mêmes corps de métier, on va en reparler tout à l'heure peut-être, mais entreprises qui ont été chargées en fait de poursuivre le travail engagé.
Alors ce ne sont pas forcément les mêmes entreprises parce qu'il a fallu relancer un appel d'offres, donc on a eu des entreprises qui étaient parfois les mêmes, parfois différentes. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on devait commencer une opération puisqu'il restait encore deux tranches à mener. Et en fait, il a fallu faire deux tranches en une, en quelque sorte. Et donc, ça a été un petit peu de réorganisation et surtout la concomitance des deux chantiers qui devaient s'achever. Donc voilà, c'est une petite complexité complémentaire. Mais voilà, ça fonctionne bien pour le moment. Je dirais que c'est beaucoup d'équipements. Complémentaires, puisque comme je le dis, les volumes n'ont pas été modifiés. Bon, il y a de l'accueil pour une cantine, ne serait-ce que pour le personnel, il y a un studio d'enregistrement, il y a des salles de conférence, des salles d'exposition qui sont devenues salles de conférence, des salles de réunion qui se sont un peu multipliées, voilà, avec des contraintes qui sont plutôt liées aux équipements qui doivent aller avec ces espaces, vidéoprojecteurs, baies de brassage, tous les réseaux, toute la connectique qui est nécessaire et qui n'est pas forcément facile à passer dans des monuments historiques, surtout dans un monument comme celui-ci, qui n'a pas de double doublage. C'est-à-dire que quand on est dans, je sais pas, un hôtel particulier avec des lambris, entre le lambris et le mur, vous avez une épaisseur dans laquelle vous pouvez passer plein de câbles. Ici, ce n'est pas le cas, puisque vous avez juste le moellon, l'enduit et le badigeon. Donc, entre l'enduit et le badigeon, vous ne passez rien. Donc voilà, il a fallu adapter un petit peu les réseaux, les passages de réseaux, et puis ces contraintes techniques qui se font. Après, la difficulté, c'est plutôt le calendrier que la technique, en fait.
Et on parle de réversibilité pour un certain nombre d'éléments, pas pour tous, puisque par exemple le chemin de ronde sera fermé sur un espace, l'espace d'enseignement de l'INSEAC, mais pour une grande partie de ce qui est fait, c'est donc réversible.
Oui, alors moi je suis toujours très prudent avec ce terme, parce que la réversibilité, elle existe dans la réalité de manière très, très limitée, c'est-à-dire que quand vous faites une extension, alors nos extensions qui sont dans les cours sont réversibles puisqu'elles ne s'appuient pas sur les murs, mais enfin elles ont malgré tout des fondations qui sont là et qui sont difficiles à retirer. Je pense que ce qui est important, c'est que dès lors qu'on a des percements à faire, dès lors qu'on a des constructions à réaliser, elles ne soient pas réalisées dans des éléments qui sont absolument je dirais importants. Si on avait des murs en pierre de taille par exemple, il vaut mieux percer dans un mur en moellon que dans un mur en pierre de taille, parce que le jour où on a besoin de le remonter, on le remonte et ça ne se voit pas. D'ailleurs, on l'a fait pour un mur qui s'était effondré. Et aujourd'hui, ça ne se voit pas. Donc, c'est plutôt ces aspects-là, moi, qui me tiennent à cœur. Le fait que quand on est dans cette cour, finalement, on n'a pas la lecture de ce projet, et que le jour où on veut retirer ces extensions, on retrouvera la configuration normale. Mais ça n'empêche que les percements qui ont été faits, ils sont toujours là. Et que toutes ces reprises en sous-œuvre qui ont dû être nécessaires pour certains éléments structurels, bah, ils y resteront. Mais oui, la réversibilité est importante, par exemple sur des décors. Quand on a parlé d'archéologie tout à l'heure, il y a quelques cellules qui sont conservées de manière très archéologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas repris les badigeons, on les a simplement consolidés. Quand on a dû compléter des décors, on a laissé les décors d'origine dessous, on les a consolidés, et après, éventuellement, on est venu travailler dessus avec une possibilité de réversibilité des badigeons qui sont apportés. Ça, c'est le vrai travail de réversibilité qu'on entend souvent dans les monuments historiques. C'est-à-dire, c'est véritablement celui qui permet de retrouver un état antérieur pour des raisons scientifiques, on va dire, mais qui s'applique un petit peu moins ici parce qu'on n'a pas des grands décors monumentaux comme dans des églises ou des cathédrales, et comme il y en a beaucoup dans les Côtes d'Armor.
On parle aussi d'une phase, une toute dernière phase qui serait celle des abords de la prison. Est-ce que vous êtes aussi associé à cette phase-là ?
Alors, c'est pas dans ma mission.
C'est pas dans ma mission.
Mais j'espère que la mairie, par la suite, le fera, même si c'est sans moi, je veux dire, hein, c'est pas le problème. Mais oui, je pense que pour finir le projet, il y aura nécessairement l'intervention sur le parvis qui sera nécessaire, et peut-être même sur la rue qui est au-devant de la porte d'origine. On avait évoqué un temps, dans l'espèce de schéma directeur qu'on a réalisé au tout début, la possibilité d'écarter un tout petit peu la voie pour élargir un peu le trottoir, permettre de stationner devant, enfin pour les piétons, devant la porte, pour pouvoir expliquer des choses, pénétrer à l'intérieur de manière plus confortable. Bon, c'est la dernière étape, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, ce sera sans doute le plus simple, mais je pense que ça participera véritablement à l'ensemble.
Alors on sait que cette prison, cette ancienne prison, sera une sorte de cœur de campus, puisque l'INSEAC est un institut d'enseignement supérieur, et qu'un certain nombre d'étudiants de bac plus 1, de licence, de master, des doctorants, plus tous les temps forts qui vont s'égrener au long de l'année, donc c'est un véritable corpus. Dans votre parcours d'architecte, est-ce que vous pensez que cette réhabilitation, reconversion, aura une place particulière, ou quand vous nous avez listé tout à l'heure tous les monuments sur lesquels vous avez des responsabilités, on peut minorer les choses, mais est-ce que vous pensez quand même qu'il y aura une place ?
Oui, véritablement, je pense qu'il y en a une, parce que d'abord, si je vous dis ça, c'est parce que souvent, dans des discussions entre amis ou entre confrères, on parle de nos projets. Et souvent, quand je parle de ce projet, ou même quand ils le voient, quand ils voient quelques photos, ils sont toujours interloqués. Enfin, c'est un bâtiment qui n'est jamais insensible. D'ailleurs, je crois que les journées du patrimoine sont toujours un grand succès. Et depuis que je connais le bâtiment, parce qu'il y a toujours eu un entretien justement courant pour qu'on puisse y accéder, et indépendamment des travaux d'ailleurs. Et donc, je pense que le fait même de ce bâtiment, à la fois pour ceux qui le visite et à la fois pour moi qui ai travaillé dessus, il est tellement particulier que ça ne peut pas laisser insensible. Ensuite, on ne travaille pas tous les jours sur une prison, même si on en a quelques-uns dans nos expériences proches, mais quelques-unes dans nos expériences proches. Mais malgré tout, non, je pense qu'en plus, il y a quelque chose que moi m'a plu sur ce projet, c'est que contrairement à d'autres maître d'ouvrage, celui-ci m'a laissé quand même une certaine latitude, ce qui est très appréciable, je dois dire. C'est-à-dire qu'on va finalement, les propositions qu'on a faites, alors elles ont été très contraintes sur l'aspect du programme, on va dire, mais par contre sur la forme architecturale, sur l'expression, évidemment, il a fallu concilier avec la DRAC et tous les services instructeurs. Mais finalement, ça a été assez agréable de pouvoir s'exprimer, même si c'est de manière discrète, parce que c'est des choses que je ne voulais pas qu'on voit, de toute façon, volontairement. Mais c'est quelque chose de très appréciable. Donc oui, c'est une bonne expérience. Et puis c'est une expérience aussi dans la durée qui montre que finalement, quand on veut quelque chose, on peut y arriver, qu'on peut aller jusqu'au bout. Et en 10 ans, on aura réussi à boucler la boucle de cette prison.
Voilà, dans la décennie donc, 1830, des institutions ont fait confiance à Louis Laurin pour une prison un petit peu révolutionnaire à l'époque sur un régime cellulaire. Et donc, dans la décennie 2010-2020, donc, d'autres institutions vous auront fait confiance pour en faire un bâtiment d'art et de culture.
Et je les en remercie, parce que c'était une belle expérience.
Nous aussi, ce sera notre mot de la fin, M. Christophe Vattard. Merci beaucoup.
Merci à vous.